à toutes et à tous. Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris. Aujourd'hui, nouveau volet de l'émission Mode d'emploi, animé par l'équipe de la Fondation Copernic, comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Avec pour présenter l'émission ce soir, donc Damien et Laurent, et à la technique, Claude et Mathieu. L'émission de ce soir est consacrée à Rio plus 20. Rio plus 20, quel bilan, quelle perspective, quel avenir pour l'écologie? Pour en discuter, deux invités. Lucas Chancel, chercheur en économie du développement durable à l'IDRI.
Bonjour.
Son travail porte sur les inégalités et plus largement sur l'économie du changement climatique, les liens entre mode de consommation et environnement, transition énergétique et emploi, et les déséquilibres macroéconomiques. Deuxième invité, Gilles Pensu, membre de la commission écologie et société d'ATAC, donc présent, tous les deux présents à Rio. Nous écouterons aussi un témoignage d'Emmanuel Seck, expert en environnement et développement pour l'ONG ENDA, une ONG sénégalaise. Nous écouterons également des extraits du documentaire de Jean-Philippe Amar, Copenhague, chronique d'un accord inachevé, retour sur une année de tractation internationale, LNOA Production 2009. Vous pouvez appeler l'émission au 01 40 05 06 10 et vous pourrez retrouver l'émission ensuite, comme les précédentes, sur le site internet de la Fondation Copernic.
Donc bonsoir, je vais me retourner vers Lucas Chancel pour poser la première question, une question assez simple. C'est peut-être d'abord définir qu'est-ce que Rio plus 20 et éventuellement le replacer dans le contexte, on va dire, des sommets, des conférences internationales sur le développement durable qui ont eu lieu depuis quelques années maintenant.
Donc pourquoi Rio plus 20 Rio plus 20 fait suite 20 ans plus tard à la conférence de Rio en 92, qui est celle qui lance toute la série des réunions sur le climat. Donc elle définit la convention climat de l'ONU. Ce sommet de 92 fait lui-même suite au sommet de Stockholm en 1972, 20 ans plus tôt. Et donc il s'agit de définir un cadre réglementaire et une vision partagée au niveau international sur les questions de développement durable. Et ce que la société civile et l'ONU souhaitent faire en 2012, c'est de tirer les leçons de ce qui s'est fait depuis 20 ans et d'avancer sur le modèle de transition pour aller vers une économie durable. Donc voilà en gros les objectifs de ce sommet.
D'accord. Du côté, peut-être Gilles Pensu, du côté des ONG et de la société civile, quelles étaient les attentes d'un tel sommet?
Écoutez, pour des associations comme ATAC et toutes celles qui ont participé au Sommet des Peuples, l'objectif c'était de rassembler déjà un certain nombre de gens pour aborder les thématiques du développement durable, sachant que même au sein de la société civile, au sein des associations, il y a des approches différentes. Ouais. Tout le monde n'est pas d'accord sur tous les sujets qui concernent le développement durable. Donc en soi, le Sommet des Peuples était un endroit de débat important.
Alors juste le Sommet des Peuples, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est ?
Le Sommet des Peuples a été organisé par le Brésil, donc parallèlement au sommet officiel Rio plus 20. Donc on peut dire que le gouvernement brésilien d'ailleurs était très impliqué dans cette organisation, puisqu'à travers différentes associations, syndicats brésiliens, ils ont financé donc ce sommet alternatif qui était en plein centre de Rio, dans le parc de Flamengo. Et Et donc ce sommet avait aussi pour objectif de conscientiser une grande partie de la population brésilienne sur les enjeux du développement durable. Et on peut dire que ça a été plutôt un succès dans la mesure où ça a été l'occasion de parler de ces questions, des questions environnementales, dans les médias, sujet qui n'est pas forcément abordé très en profondeur dans la société brésilienne, qui est très orientée sur la question de la croissance économique, du développement en général.
D'accord. Alors, on vient de parler du sommet officiel, du sommet des peuples. Il y a eu également un sommet, donc je me retourne vers Lucas, qui concerne plutôt l'économie verte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors, bon, donc l'économie verte, c'était l'un des deux thèmes principaux à l'agenda au sommet officiel donc de l'ONU. Donc, on avait en parallèle de ça un sommet de la société civile, le sommet des peuples. Et il y avait aussi un congrès international d'Ecological Economics. Donc, c'est une association de chercheurs alternatifs sur l'économie et qui ont notamment des visions assez marquées sur les questions relatives à la croissance économique et les alternatives à la croissance. Donc il y avait également un sommet de ces chercheurs qui se déroulait en même temps que les deux sommets dont on vient de parler. Et donc là-dedans, il a été question des outils de mesure du bien-être, notamment, et de la modélisation des trajectoires d'évolution de nos sociétés. Donc c'était un sommet un peu plus technique, mais l'approche était vraiment pluridisciplinaire, c'est-à-dire c'est des économistes avec une vision assez large et qui ont volonté de discuter avec des sociologues, avec des politologues, avec des biologistes, avec des physiciens. Donc il y avait une pluralité de disciplines représentées au sein de ce sommet.
Oui, juste quel a été le lien, le lien réel vraiment entre les trois sommets, s'il y en a eu un.
On peut dire que entre le sommet des peuples et le sommet officiel, excepté certaines ONG ou associations qui étaient sur les deux, notamment ATTAC qui avait été convié dans la délégation française en tant qu'observateur, ce qui permettait d'ailleurs à notre délégation d'ATTAC d'avoir une vision sur ce qui se passait au cœur même de Rio+20, sachant qu'au sommet des peuples on était justement un peu coupé de cette réalité. On en avait un aperçu qu'à travers les médias, mais qui forcément était biaisé. Et donc on a eu une image un peu négative, enfin même carrément négative de ce qui se passait dans le sommet officiel, où tout semblait jouer d'avance. D'ailleurs, peu avant avait eu lieu le G20 au Mexique, au cours duquel on a appris qu'en fait les réelles négociations de Rio+20 étaient déjà engagées, donc dans le cadre du G20, c'est-à-dire en dehors du cadre de l'ONU. Donc en quelque sorte, l'ONU a été court-circuitée. L'ONU qui avait organisé le sommet Rio+20 était court-circuitée déjà par le G20 auparavant. Donc déjà, ça avant même que le G20 ait démarré, que le Rio+20 ait démarré, on savait que probablement déjà ça serait un échec, mais qu'en plus les choses ne se passaient pas là. Voilà. Alors qu'au sommet des peuples, là il n'y avait pas, il y avait moins d'attentes. Ce qui était important au sommet des peuples, c'est qu'il y ait un débat, c'est que la société civile brésilienne soit représentée largement, que les revendications du peuple brésilien, notamment de toutes les communautés qui se trouvent dans des zones où les problèmes environnementaux se posent, que ces gens-là puissent s'exprimer, et ça a été le cas, notamment certaines tribus indiennes et pas seulement.
D'accord, donc qu'on comprenne bien, donc on a ces trois sommets qui se déroulent au même moment, avec des gens d'horizons différents, qui communiquent finalement peut-être assez peu. Est-ce que ces trois sommets qui sont sur la même durée, vous, Lucas Chancel, comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'est un peu de la même façon que Gilles ?
Non, disons, donc moi j'ai eu l'occasion d'aller dans les trois, donc j'intervenais au sommet d'Ecological Economics, j'ai eu l'occasion d'être présent au sommet officiel et de, d'aller regarder et écouter, même si malheureusement ne comprenant pas le portugais, le sommet des peuples, c'était difficile pour les non-portugais. Mais sur les liens entre les trois, ce qu'il faut déjà, je pense, préciser, c'est une distance géographique très forte entre le sommet officiel et le sommet des peuples. Le sommet officiel était à 2h30 du centre-ville.
D'accord.
Pour y aller, il fallait prendre des navettes qui étaient à certains points de Rio. Donc déjà, cette distance géographique, bah, ça marquait très fortement un écart entre ce qui pouvait se dire, ce qui pouvait se penser, ce qui pouvait se décider d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, sur la distance dans le contenu de ce qui s'est passé, pour moi, c'est assez évident que... Il y a eu très peu d'échanges entre le sommet des peuples et le sommet officiel. Le congrès d'Ecological Economy, je le mettrais un peu à côté. C'est pas la même ampleur, c'est pas le même enjeu. C'est un sommet un parallèle de personnes qui réfléchissent à la question, mais qui n'ont pas la même visée au niveau de la diffusion du message qu'ils ont apporté. Et sur la différence de contenu. C'est vrai que le sommet officiel, on part avec peu d'attentes, étant donné que le processus en amont montrait déjà un mois ou deux mois avant la tenue du sommet que peu de choses allaient pouvoir se passer. Je peux rentrer dans le contenu maintenant ou si vous voulez, on le fera peut-être plus tard.
Non, allez-y.
Donc, sur le contenu, qu'est-ce qu'on discute au sommet officiel ? On discute de deux choses principalement, de l'économie verte. Premièrement, et deuxièmement, de la gouvernance mondiale de l'environnement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie verte ? Comment est-ce qu'on arrive à parler de ce thème-là ? Replaçons les choses dans leur perspective. Crise économique en 2007. En 2008, le PNUE lance un programme de réflexion sur l'économie verte. Dans ces eaux-là, il y a aussi l'OCDE qui lance une réflexion sur la croissance verte. Alors, le terme croissance verte fait débat. On se rend compte que il y a effectivement des incohérences propres à ce terme. Donc, le PNUE reprend le terme économie verte, qui est un peu plus consensuel, même si il est difficile à définir. Mais le PNUE en fait quand même un fer de lance de la discussion. Et l'Union européenne reprend ce terme-là pour l'inclure dans l'agenda de discussion. Et l'Union européenne arrive avec un certain set de propositions sur différents thèmes et différents domaines, donc notamment l'efficacité énergétique, la gestion des forêts, les océans, la gestion de l'eau. Ces thèmes-là sont très mal repris par le G77, donc le groupe des pays les moins avancés et des pays en développement, et aussi les émergents. Pourquoi ? Parce que l'économie verte est perçue comme une nouvelle manière qu'auraient les pays du Nord pour imposer leurs technologies, pour mettre des barrières commerciales à leurs frontières et pour marchandiser l'environnement. Donc en fait, là, on a un front de refus qui se forme contre ce concept de l'économie verte. À la fois les pays les moins avancés qui veulent pas qu'on leur vende des technologies qui viennent du Nord, les pays émergents qui veulent pas de barrières au commerce, qui veulent continuer à vendre leurs produits au Nord, et la société civile, une partie de la société civile en tout cas, qui refuse cette idée de marchandisation qu'il y aurait derrière cette économie verte. Donc voilà pour le premier pan de la discussion. Le deuxième pan de la discussion, c'est sur la gouvernance de l'environnement et notamment le rôle du PNUE, qui devrait... Enfin, la proposition de la France, c'était d'en faire une organisation mondiale de l'environnement. On voit ça, là aussi qu'on n'a pas réussi à en faire une organisation en tant que telle.
Moi, je voulais juste revenir sur le terme d'économie verte. Vous avez parlé de marchandisation. C'est un des chevals de bataille d'attaque. Enfin, je ne sais pas quelle est votre position, vous, sur ce terme de façon plus générale ou ce qu'il en ressort. Enfin, quelle est votre position sur la croissance verte, l'économie verte ?
Donc ATTAC a récemment publié un ouvrage là-dessus, justement spécialisé sur l'économie verte, pour essayer d'en dresser les contours. Et on peut parler de financiarisation de la nature ou de marchandisation. En tout cas, ce qui est en question, c'est vrai que c'est très ambigu parce que pour beaucoup de monde, l'économie verte, c'est quelque chose de positif dans la mesure où il s'agit de non pas d'exploiter la nature dans un sens négatif, mais disons de produire d'une façon plus propre. Ça, c'est le marketing, je dirais, des grandes multinationales, hein, de faire quelque chose, de travailler, de faire quelque chose de propre. Mais l'économie verte, en réalité, pour nous à ATTAC, c'est en fait la financiarisation de la nature, c'est-à-dire tous les mécanismes qui aujourd'hui sont utilisés dans le domaine de la finance et appliqués à une grande partie de l'économie seraient appliqués à la nature. C'est-à-dire que la nature, tout ce qui est défini de la nature est quantifiable a priori. Alors le gros problème, c'est que on n'a pas aujourd'hui d'outils qui permettent de quantifier, par exemple, l'air que nous respirons. C'est impossible de le quantifier. Pourtant, dans la logique de l'économie verte, tous ces éléments-là devraient être quantifiés et à partir de là, on devrait pouvoir dire telle chose vaut tant et peut-être échanger contre telle autre chose. Donc l'économie, la forêt amazonienne par exemple, pourrait être marchandisée contre une autre zone de la planète. Et ça, bien sûr, non pas sous le contrôle d'organisations internationales, puisqu'on voit que ces initiatives ont échoué, celle de l'Organisation internationale de l'environnement n'existera pas, mais par contre seront donc sous le contrôle des puissances économiques et des organisations peut-être commerciales.
D'accord, ben merci. On va passer un premier extrait musical et on reviendra sur la question de l'économie verte. Donc on va écouter Greenwashing de Trio. On veut du green, on veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison. On veut des baleines, on veut du green, 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 c'est pour les as, on veut du green, 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 washing. Bonsoir, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Nous venons d'écouter un extrait de l'album La Dit La Fée de Trio, donc Greenwashing. L'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic est consacrée ce soir à Rio Plus 20.
Alors, je voulais revenir, moi, donc on a abordé dans cette première partie le sommet des peuples. Je voulais revenir un peu en termes d'organisation, savoir comment se déroulait ce sommet. Voilà, est-ce qu'il y a des organisations, des ateliers thématiques qui sont faits, comment sont faits les comptes rendus, est-ce qu'il y a des décisions qui sont transmises au sommet officiel, voilà, comment se passe plus en détail, on va dire, le sommet des peuples et la place de la société civile au sein de ces négociations. Gilles, allez-y.
Oui, alors l'organisation du sommet des peuples a été assez chaotique. On savait déjà de la part des Brésiliens que c'était pas facile, même s'il y avait un soutien du gouvernement, un soutien financier. Très peu de temps avant le sommet, on ne savait même pas le lieu exact. Donc ça a été des âpres négociations pour avoir un lieu qui soit accessible, central, et effectivement qui était beaucoup plus près du centre-ville que le Rio Plus 20. Donc sur les organisations, donc comme je l'ai dit, beaucoup d'ONG brésiliennes, beaucoup de syndicats, notamment la CUT, qui est la principale centrale des travailleurs au Brésil, était très présent. Aussi, il faut noter la présence très remarquée de nombreuses tribus indiennes qui sont venues pour parler des problèmes qu'ils rencontrent, donc concernant l'environnement, notamment le problème phare, le barrage de Belo Monte qui a été décidé et qui malheureusement malgré quelques étapes incertaines, mais va poursuivre son cours, et donc il va mettre en question la vie de nombreuses communautés qui bordent le fleuve où sera construit le barrage. Donc ces communautés-là, elles sont là pour défendre leurs droits et pas seulement pour débattre. Donc il y a un côté très, très activiste de la part des ONG brésiliennes. Sur la question de l'économie verte, on a noté une certaine ambiguïté sur... bien que la question de la financiarisation soit très bien comprise, il y a quand même beaucoup d'organisations au Brésil, notamment celles liées au Parti des travailleurs, qui sont très impliquées sur la question de la croissance économique et dont la problématique du développement économique pur, de la croissance de l'emploi, est un peu un porte-à-faux par rapport à la question de l'environnement, parce que le gouvernement brésilien veut vraiment développer une économie industrielle et d'exportation dont on sait qu'elle est c'est une économie prédatrice et qui est très dommageable pour l'environnement et pour le respect des gens qui vivent dans les lieux qui sont concernés. C'est pas évident. Au Brésil, il y a un grand débat sur cette question, mais au moins il a eu le mérite de se faire dans le cadre du sommet des peuples.
Lucas Chancel, peut-être une réaction sur l'organisation du sommet des peuples. Est-ce que comment l'IDRI a été associé, comment vous l'avez vécu, ou est-ce que vous avez eu un regard extérieur?
Moi, sur le sommet des peuples, j'avais un regard uniquement extérieur, étant donné que l'IDRI n'y était pas associé. Moi, ce qui m'a marqué en rentrant dans le sommet des peuples et en y passant une demi-journée au début, c'est la sensation que j'arrivais dans un endroit avec énormément de stands de vente d'artisanat local. Et j'ai trouvé ça assez surprenant au premier abord. Surtout dans un espace où on est censé parler aussi de la question de la marchandisation dont on parlait justement. Et ça, d'un point de vue extérieur, c'était assez surprenant, voire paradoxal. Sur le fond, moi, ce que j'en ai vu, c'est la manifestation de 50 000 personnes le dernier jour du sommet. Bon, alors là, on peut se demander, est-ce que c'est beaucoup sur une ville de 50 millions d'habitants ou pas? Est-ce que ça a été mobilisateur? Bon, voilà, donc ça, c'est...
En l'occurrence, la manifestation, la délégation ATTAC qui était présente, et évidemment, elle était peu nombreuse et carrément noyée au milieu de la foule. Ce qui a été remarqué lors de cette manifestation, c'est la faible visibilité des tribus indigènes. Par contre, une présence très forte des centrales syndicales. Donc là, on a bien compris que c'était plus politique et que finalement la question, les questions de l'environnement passaient un peu au second plan par rapport à des logiques syndicales.
Je reviens là sur le lien entre sommet officiel, sommet des peuples. Ce qu'on peut noter quand même, c'est, moi de mon côté, ce que je vois, c'est finalement le fait que le sommet des peuples n'a pas ou peu fait pression, en tout cas à l'intérieur du sommet officiel. Le parti pris était clairement, on est à l'extérieur et on critique ce qui se passe de l'extérieur, mais ce qui fait qu'il n'y a pas de dialogue entre les deux et il n'y a pas de pression sur le résultat obtenu au sommet officiel. Ça c'est assez clair et c'est assez visible. Et sur le texte de synthèse du sommet des peuples de fin de sommet, il y a eu certaines voix qui ont dit qu'il y a eu une extrême difficulté à faire cette synthèse-là, donc à confirmer, mais donc extrême difficulté de produire une vision politique cohérente entre toutes ces différentes parties prenantes, une vision cohérente de la transition vers une autre économie en fait. Et donc là, ça pose aussi la question de savoir est-ce que le modèle de pensée qui peut émerger du sommet des peuples est toujours capable de produire une vision transformatrice de la société. Enfin, une vraie question pour moi.
Je crois que la déclaration finale du sommet des peuples avait un intérêt sur le plan juridique, je veux dire, sur la question de la défense des droits des citoyens, travailleurs et minorités. Ça, c'était très important parce qu'il y avait une très forte attente au Brésil de la part de la société civile. Par contre, évidemment, sur la question de l'économie verte, de ces questions-là sont beaucoup plus difficilement synthétisables et donner des réponses définitives là-dessus, c'était évidemment très difficile. Mais de toute façon, le sommet des peuples est une porte ouverte qui, contrairement au sommet officiel, a vocation à se poursuivre. Donc on ne peut pas dire que ça soit... on n'attendait pas un résultat définitif, en gros.
D'accord. Merci. On va écouter un court extrait du documentaire Copenhague, chronique d'un accord inachevé de Jean-Philippe Amar, qui traite à la fois du rôle un peu de lobbying et de la place des ONG et de la place des pays en voie de développement dans des négociations qui étaient climatiques lors de cet exemple, mais qui pourraient être pris pour Rio plus 20.
On a un texte qui était présenté par l'ONU. Toutes les options sont là sur la table. On parle de trucs très ambitieux, des trucs complètement catastrophiques. On a des points que nous, on a remarqués qui sont manquants. On veut absolument que d'ici à la fin de cette négociation à Bonn, tout ce qui n'est pas sur la table revienne sur la table. Et on va voir les pays qui sont assez alignés, on va dire, avec notre analyse et nos positions, pour demander de mettre telle option sur la table. Donc, on dit à Bonn, c'est d'être sûr qu'à la fin de ces deux négociations, toutes les options soient là.
Ces débats autour du texte révèlent les divergences et les inégalités entre les pays. Pour les petits États insulaires, par exemple, 2 degrés de plus, c'est beaucoup trop.
C'est toujours un combat pour les petits pays d'être présents autour de la table.
Selwyn Hart. Son pays est menacé par la montée des océans. Il défend son droit à la survie.
Nous n'avons pas de pouvoir économique, pas de pouvoir politique. Nous ne pouvons donc compter que sur nous-mêmes et nous battre afin de nous assurer un siège autour de cette table. C'est difficile, mais nous devons persévérer, car sinon nos voix et nos positions ne seront pas prises en compte. On ne peut faire confiance à personne, et personne ne se battra à notre place. Nous devons donc le faire nous-mêmes.
Oui, donc on vient de voir que c'est vrai que les pays en voie de développement n'ont pas toujours le même poids que les autres pays au cours de cet extrait là, d'un documentaire. On a donc un appel téléphonique. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, vous êtes en direct. Donc je vais vous laisser vous présenter tout d'abord et puis nous expliquer un peu vous votre vision des négociations de Rio plus 20.
D'accord, très bien. C'est Hindou Omar Ibrahim. Je suis du Tchad et je suis la coordinatrice de l'association des femmes telles autochtones du Tchad. Alors à Rio, j'avais représenté le comité de coordination des peuples autochtones de l'Afrique et les réseaux climat et développement.
D'accord. Pour
représenter un peu ce qui se passe sur le changement climatique et la vision des communautés autochtones sur Rio plus 20. Mais en général, en fait, moi, c'est ce que je vis sur le sommet. Les gens ne venaient pas pour faire les bilans de 20 ans. Plutôt, les gens venaient dire tout ce qui s'est passé bien chez eux. Et le sommet était divisé en 3 grands groupes. Il y avait le sommet du peuple, il y avait le sommet officiel, et puis il y avait le sommet des communautés autochtones et puis peuples marginalisés qui sont vraiment à la marge du développement.
D'accord.
Et les 3 n'étaient pas vraiment connectés. Alors, les résultats amenaient que... Ils n'ont pas tout à fait pris en compte les doléances de ces 2 groupes qui étaient en dehors du sommet officiel. Alors, arrivé à la fin, à la réunion de haut niveau, alors le président, qu'est-ce qu'il disait? Tout le monde venait. Moi, j'ai pu faire ça par rapport au changement climatique, par rapport à la biodiversité, par rapport à ceci, cela. Mais il ne disait pas, vraiment, on avait pris des engagements qu'on n'a pas pu respecter à 100%. et on s'engage à faire ceci ou cela pour que le développement soit vraiment durable. Par exemple, sur l'environnement, ou bien sur les nouvelles recherches de financement, ou sur l'économie verte, leur vision à tous et puis leurs engagements à tous, pour que peut-être Rio puisse, je ne sais pas, 30 ou 25 ou autre chose, leur de compte. Mais bon, bien que c'était grand, c'était vraiment immense, il n'y avait pas des objectifs concrets à atteindre pour eux, pour chacun venir raconter et repartir. Les bons côtés à nous, que les gens ont quand même plus discuté sur l'économie verte, l'environnement vert, sur lesquels beaucoup de gens n'étaient pas d'accord ou ne comprenaient pas. Alors, les pays en voie de développement, comme l'Afrique, qui essayaient d'accepter et de ne pas accepter en hésitant sur c'est quoi l'économie verte, c'est quoi vivre verte, et des gens ont besoin de vivre verte, et si on tend vers le développement, on a vraiment envie de développer non verte, quoi, en exploitant nos pétroles, en utilisant, c'est pas, nos forêts ou nos terres pour pouvoir nous développer. Mais est-ce que c'est ça qui est le développement durable ou bien c'est l'économie verte? Alors, il y avait cette confusion-là et puis cette marge entre le pays du Nord et le pays du Sud dans les négociations.
D'accord. Il y a Lucas Chancel qui va vous poser une question.
En fait, c'était surtout pour rebondir sur quelque chose de crucial qui a été dit au début de votre intervention. C'est au niveau du sommet officiel, en tout cas, c'est l'incapacité du processus onusien à tirer des bilans de ce qui a été fait au cours des 20 dernières années. Alors, même que pour un sommet anniversaire, l'un des objectifs était justement de tirer le bilan de tout ce qui s'est fait, ce qui s'était fait en matière environnementale. Et là, en fait, il y a eu un gros raté de l'organe de préparation de la conférence, c'est qu'on n'a pas été capable de produire un rapport qui mettait clairement les points positifs et les échecs et les raisons de l'échec et les outils qui n'existaient pas, par exemple, pour réaliser certains objectifs ou des objectifs qui n'avaient pas été clairement fixés. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas été fait et donc c'est l'une des causes principales du résultat mou de cette conférence onusienne.
D'accord.
Exactement. En fait, c'était un peu dommage, quoi. Moi, en tant que représentant de la société civile, je m'attendais plus à ce que les organes onusiens et bien sûr les États aussi, dans toutes leurs interventions, de dire quel était leur engagement, qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme leur réussite. Mais bien sûr, il y a des échecs partout. Et si on tire les bilans généraux, il y a plus de côtés négatifs que de côtés positifs de tous les engagements des États membres. Alors, ils devraient dire ça. Moi, j'ai des interventions, j'ai suivi les interventions de presque de tous les hauts fonctionnaires de l'ONU, le président, qui essayaient de dire « mon pays a fait ceci, mon pays a fait cela », mais c'était des trucs sur des conventions bien spécifiques ou bien sur des aspects très, très visés, mais qui n'ont pas vraiment à ajouter une valeur sur l'économie verte. Comme le président français, il avait dit aussi, lui, il s'engage sur le financement innovant, comme les taxes sur les transactions, machin. Ça, d'accord, mais ça, c'est des trucs qui sont déjà à la une, si on peut le dire, les deux dernières années.
Finalement,
qu'est-ce qui s'était passé?
Là, c'est un peu
les engagements par rapport à ces échecs du 20 ans.
Donc, c'est un peu l'échec de l'ONU, comme on va dire, dont le rôle serait justement d'avoir cette neutralité, de pouvoir avoir cette honnêteté de tirer un bilan des politiques des 20 dernières années. Finalement, on assiste à chaque pays qui fait son propre bilan et qui forcément met en avant ses réalisations ou ses promesses. C'est un peu ça ce que vous voulez dire.
Exactement. Et comme c'était pas passé comme prévu, alors le résultat en est qu'il n'y avait pas vraiment de grands engagements. Et là, les gens ne s'affolent pas comme déjà ils se sont affolés. Rio plus 20, on va les préparer. Qu'est-ce qu'on va faire? Post-Rio. Qu'est-ce qu'on va faire post-Rio? Nous, on est un peu désappointés. En fait, quels seront les engagements des États membres? Quels seraient les objectifs qu'ils vont atteindre? Et bien que maintenant, on n'a que les objectifs des millénaires pour le développement d'ici 2015. Il y a que ça qui va jouer, mais après 2015, qu'est-ce qu'on va faire pour le développement durable et alors, pour les trois conventions de Rio comme engagement clair?
Sur cette question de qu'est-ce qui sort de Rio et qu'est-ce qui se passe sur le post-2015 notamment, là-dessus, la conférence aboutit sur un processus. Donc c'est forcément frustrant pour tout le monde, en fait, d'avoir une conférence qui n'aboutit pas sur une construction, sur quelque chose qu'on peut avoir clé en main. Mais il faut quand même noter que ce processus, c'est quoi? C'est la définition des objectifs du développement durable qui seraient à l'environnement ce qu'étaient les objectifs du millénaire pour le développement au développement. Et là-dessus, il y a donc un processus politique qui est lancé. On va définir ce que c'est que ces objectifs de développement durable. Et là, il faut quand même noter quelque chose d'intéressant. C'est une inversion de ce que c'est que la vision du développement, où on avait avant une vision un peu par les institutions internationales, une vision normative. Donc le développement, c'est cette trajectoire-ci et c'est avec ces mesures-là que vous allez y arriver. Maintenant, on a une vision du développement par les objectifs. Et donc là, on peut voir l'amorce d'un changement de paradigme qui est quelque chose d'intéressant à noter. Et deuxièmement, sur ces objectifs du développement durable, il y a en ce moment deux commissions en fait à l'ONU, une qui est menée par David Cameron, président anglais, une autre qui est menée par l'économiste Jeffrey Sachs, pour définir quel va être le contenu de ces ODD. Donc en fait, la discussion elle est en train de se faire maintenant et donc ça va accoucher de conclusions dans l'année et demie qui vient.
D'accord. Bah, je vous remercie et je remercie Hindou de nous avoir appelé. Merci pour votre intervention. On va faire une petite pause musicale et on va écouter HK et les Saltimbanques avec un titre qui s'appelle Niquons la planète, extrait de leur premier album Citoyens du monde. Nous venons d'écouter Niquons la planète de HK et les Saltimbanques, extrait de leur premier album Citoyens du monde. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM à Paris. Donc l'émission Mode d'emploi animée par la Fondation Copernic et consacrée à Rio plus 20 ce soir.
Alors je vais profiter de l'appel téléphonique hein, qu'on a eu juste avant la pause musicale pour rebondir sur les problématiques des pays du Sud, qui ne sont pas les mêmes, bien évidemment, en termes d'environnement que les pays du Nord. Je vais me retourner vers Lucas. Quels sont leurs rôles, quels sont leurs pouvoirs, on va dire, de négociation dans ce genre de sommet, sachant que c'est aussi ces pays-là qui possèdent la majeure partie, on va dire, de la biodiversité de la planète.
En fait, là, la négociation telle qu'elle s'est faite et telle qu'elle a été préparée en amont de la conférence. Donc, en fait, en amont de la conférence, il y a des mois de négociations entre ministres de chaque pays et les sherpas, donc les négociateurs et les juristes de chaque gouvernement. Et là, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les pays les moins avancés ont fait un front de refus sur la question de l'économie verte telle que proposée par l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que les pays les moins avancés disaient Bon, alors, ce que vous êtes en train de nous proposer là, c'est en fait un moyen de vendre votre technologie que l'on va devoir acheter. Et c'est en fait une volonté de nous dicter des nouvelles règles de l'économie, comment faire l'économie qui sont en fait les vôtres et auxquelles nous, on va pas réussir, dans lesquelles on va pas réussir à s'intégrer. Donc, voilà ce qui explique ce front de refus. Et en fait, là, ce front de refus, il a bien fonctionné, étant donné que les pays émergents, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs et qui n'ont pas les mêmes ambitions que les pays les moins avancés, se sont retrouvés d'accord là-dessus. Pourquoi ? Parce que eux, ce qu'ils ont vu dans l'économie verte, c'est des barrières protectionnistes à l'entrée de l'Union européenne et potentiellement des États-Unis. Donc la Chine s'est dit, je vais avoir du mal à vendre mes technologies parce que, certes, elles sont peut-être vertes, c'est peut-être des panneaux solaires, mais ils sont produits de manière moins efficace et en rejetant plus de CO2 que si on les produit en Europe. Donc, si on fait une économie verte avec des barrières aux frontières, moi, j'aurais plus de mal à ça. Donc là, il y a une convergence du refus. Et là-dessus, les pays les moins avancés, qui à un moment ont peut-être eu une position un peu plus progressiste, qui était de dire « Bon, on est peut-être prêt à avancer là-dessus, mais alors on veut du financement. La condition, c'est que vous nous financiez ça. » Et là-dessus, évidemment, impossibilité au niveau US, au niveau Europe, de se mettre d'accord sur un volume de financement qui satisferait les pays les moins avancés. Peut-être que Gilles veut revenir
là-dessus.
Oui,
effectivement, on voit que l'Europe défendait à la fois des questions environnementales, mais aussi ses propres intérêts. À la différence des États-Unis, notamment, qui, eux, sur tous les plans, on peut dire qu'ils ont été absents. D'ailleurs, au sommet officiel, on n'avait pas de représentants au niveau des gouvernements, de la part des États-Unis, de la part de l'Angleterre. Finalement, le président français était un des rares à être présent. Donc cela montrait bien que l'enjeu, finalement, était plus limité pour ces pays-là. Peut-être moins d'ailleurs que pour les pays dits du Sud. Il y a une chose que je voulais ajouter qu'on n'a pas évoquée, c'est la présence des multinationales, des grandes corporations, qui, pour la première fois, ont été présentes dans les négociations. Et c'est vraiment une évolution notable qui n'existait pas auparavant. Et justement, comme on a parlé beaucoup d'économie verte, s'il s'agit bien de défendre l'économie verte, c'est justement parce que ces organisations-là, ces multinationales, ont tout intérêt à la développer, puisqu'elles ont une capacité financière énorme qui peut leur permettre de s'accaparer des terres, des éléments de l'environnement sur lesquels elle peut avoir une très forte influence. Donc, je crois qu'il faut souligner l'importance de la présence de ces multinationales parce qu'elles auront certainement, hélas ou pas là, je ne sais pas, mais elles auront un poids croissant à l'avenir dans ces négociations.
D'accord, merci. Alors, on va écouter un extrait du documentaire Copenhague, chronique d'un accord achevé de Jean-Philippe Amar, avec un extrait qui concerne l'exploitation forestière en République démocratique du Congo.
Pour la forêt primaire, le défi est de concilier exploitation forestière et gestion durable. Chaque année, 500 000 mètres cubes de bois sont coupés officiellement, auxquels s'ajoutent les coupes sauvages. C'est peu par rapport au potentiel du pays. La RDC est devenue le nouvel Eldorado de l'exploitation forestière. Le pays ne pourra se passer des retombées économiques de cette industrie pour son développement. Encore faut-il qu'elle soit encadrée, régulée et surtout contrôlée. Les autorités doivent donc reprendre la main pour que ce commerce ne se transforme pas en drame écologique, aveuglé par une rentabilité immédiate et irréfléchie, oubliant les populations locales. Un nouveau code forestier a été rédigé dans cette optique en 2002, mais sa mise en place reste difficile. Le territoire est immense, les moyens de surveillance et de contrôle insuffisants. Dans la concession de Luna, on tente de s'orienter vers une industrie durable.
Les points rouges étant.
Ça, c'est les positionnements. Les tiges.
Les tiges.
Barge épaisse. Voilà. On prélève les coordonnées, on lance au bureau forestier. Et le bureau forestier prépare les cartes du bloc avec les positionnements de essence.
Par exemple, si vous coupez aujourd'hui une grume qui est en dessous des critères, elle sera saisie à partir du moment où il y aura une société de contrôle performante. Et les règles qui sont en aval, la certification par l'Union européenne, le FLEG, tout ça aussi participe. Il y a une vision politique commune qui n'est pas seulement dans les pays producteurs, mais dans les pays acheteurs. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce sont les pays étrangers qui financent le coût du contrôle. C'est les pays étrangers qui financent et qui doivent financer les plans d'aménagement. Et tout cela doit fonctionner dans un esprit totalement participatif.
Alors, on vient d'écouter un extrait du documentaire de Jean-Philippe Amar, Copenhague, chronique d'un accord achevé, retour sur une année de tractation internationale, LNOA, production 2009. Donc, on vient de voir qu'on a des pays en voie de développement qui ont des richesses. Donc la question, c'est comment ils peuvent exploiter leurs richesses tout en respectant ce qui est finalement un bien commun, parce qu'on n'a pas parlé de la notion de bien commun, mais finalement c'est un bien commun, c'est un service universel, avec des questions de financement derrière, qui sont par exemple ici, là, c'était le contrôle. Comment contrôler que la coupe du bois respecte bien un certain nombre de principes?
Oui, on peut voir ça d'ailleurs au Brésil aussi, hein, sur la question de l'exploitation de la forêt amazonienne. La question du contrôle est cruciale. Et Dieu sait qu'un pays comme le Brésil, avec une telle immensité, il est très difficile de contrôler l'exploitation des forêts. On sait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de multinationales qui investissent, qui achètent des terres dans l'optique de les exploiter un jour, mais ne serait-ce que pour dans une optique de financière, hein, de possession, c'est-à-dire avant même de... Il ne s'agit pas forcément de détruire les forêts, hein, ça peut être au contraire des réservoirs de biodiversité qu'un certain nombre d'organisations souhaitent s'approprier afin de pouvoir les marchandiser à l'avenir.
Alors, pour conclure, je vais vous laisser la parole à tour de rôle, et pour essayer de finir aussi sur une note un peu plus optimiste, quelle perspective sur ces problématiques environnementales, je pense notamment aux objectifs du millénaire, hein, qui se termine pour l'année 2015. Comment vous, par rapport à vos institutions, vous voyez, on va dire, ces évolutions, ces perspectives de négociation? Est-ce qu'on aura vraiment des accords ambitieux de la part des dirigeants de la société civile, enfin un commun accord dans le futur?
Donc sur le bilan de ce sommet-là, on a entendu parler de crash de l'économie verte. Ça, c'est un article du Monde juste après la conférence. Une députée européenne, Sandrine Bélier, parlait de sommet de la déception. Est-ce qu'il y a vraiment un échec de cette conférence? Moi, je pense qu'il y a surtout un échec du processus qu'il a mis en place. En fait, il y avait peu d'attentes dans cette conférence. Donc, en fait, l'échec par rapport à l'attente est faible, mais par rapport à l'attente de la conférence est assez faible. Mais l'échec par rapport à l'attente et aux besoins réels de coordination des politiques publiques au niveau international pour faire face à ces enjeux, c'est un échec qui est extrêmement fort. Bon, le constat qu'on peut faire, c'est quand même un constat de réalisme, c'est-à-dire que cette conférence-là, elle représente bien en fait l'état du monde aujourd'hui et l'état de la coordination internationale. C'est-à-dire que on a de plus en plus de mal à se coordonner sur ces grands sujets, et il y a une nouvelle donne qui est liée au fait que il y a l'apparition du rôle des émergents sur la scène de la gouvernance mondiale qui rebat les cartes et qui rend encore plus difficile le besoin de se coordonner.
Alors, j'y pense une petite conclusion de la part, puis peut-être. Qu'est-ce que les objectifs d'attaque pour de la société civile pour être sur ces
Alors,
la suite.
Bon, ATTAC était une des organisations présentes au sommet des peuples, sachant que vu de l'Europe, on n'en attendait pas grand-chose. Donc, on ne peut pas dire qu'on ait un résultat décevant dans la mesure où au niveau du sommet des peuples, on ne s'attendait pas à des résultats tels que ceux qu'on pouvait espérer au niveau des négociations officielles. Bon, je pense qu'il y a quand même un élément positif qu'on peut souligner, c'est la question de la biodiversité dans les océans. Il y a eu un certain nombre de décisions concernant la protection des océans qui sont plutôt positives, donc c'est à souligner. Après, il faut savoir comment ça va se traduire concrètement, mais au moins c'est un aspect positif.
D'accord. Le dernier mot.
Très très rapidement, donc outre les ODD, il y a un processus qui a été mis en place dans le cadre de la négo officielle, ça s'appelle les dialogues, qui était en fait en amont de la négociation des dialogues avec la société civile sur certains thèmes abordés dans la négociation pour faire émerger des propositions qui n'étaient pas les propositions officielles. Et ces dialogues sont faits par Internet pendant 6 mois avant la négo et ensuite ont fait l'objet de conférences sur place. Et en fait, là, on voit bien que le processus nuisien est essoufflé, mais que là, on a possibilité d'émergence d'un nouveau mode de représentation collective des préférences qui passerait par un autre canal que par ces grandes messes de l'environnement, notamment par Internet.
D'accord. Merci. Donc l'émission touche à sa fin. Donc je voudrais remercier donc Lucas Chancel et Gilles Pansu pour être venus dans nos studios. On voudrait remercier également Emmanuel Sec de l'ONG ENDA au Sénégal que l'on a interviewé, mais on n'a pas eu l'occasion là de passer un extrait de son interview. Le site de la Fondation Copernic, c'est fondation-copernic.org. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site. Le prochain numéro de Mode d'emploi animé par la Fondation Copernic sera le vendredi 23 novembre sur le thème des politiques de rigueur. Bonne soirée, on finit en musique avec le tango des veaux du groupe Les Pourquoi Pas. Merci.
Je sais pas ce que je fous, j'ai le moral en mode rural. La dépression au bord des lèvres, comme un employé de chez Renault, écrasé par le capital. Je me sens morose, j'ai bien envie de prendre la porte. Et comme un déchet nucléaire pollue la terre.